Le journal, bonjour Laurence Thomas.
Bonjour à tous. Quand le chef de l'État tire les leçons de la crise sanitaire parce qu'il y a des choses imprévisibles, Emmanuel Macron ne prévoit rien pour 2022. Il n'exclut rien, y compris de ne pas se représenter à la présidentielle. L'accord post-Brexit en pause, les négociations ont échoué alors que la sortie officielle des Britanniques de l'Union européenne est dans 3 semaines. Et puis les débuts difficiles des handballeuses françaises contre le Monténégro hier soir dans l'Euro féminin. Une victoire de justesse, 24-23.
Les invités de la matinale, dans une vingtaine de minutes, Patricia Martin, vous recevrez...
Philippe Moreau-Chevrolet, co-auteur avec Morgan. Navarro de la bande dessinée Le Président, publié aux éditions Les Arènes.
Et l'invité à partir de 8h20, ce sera Patrick Mignola, président du groupe Modem à l'Assemblée nationale, le Modem qui sera en congrès aujourd'hui.
France Inter.
Et pour la première fois donc, Emmanuel Macron envisage 2022 et de ne pas être candidat à sa réélection.
C'était hier soir lors d'un entretien fleuve sur le média en ligne Brut. Le chef de l'État a clairement évoqué la prochaine campagne présidentielle. Il se méfie de la crise sanitaire et de ses conséquences, même si tout dans son attitude, ses projets, révèle son envie de se lancer dans la bataille. Maxence Lambrecq.
Il s'emporte sur le climat, répond à toutes les questions, du sort des Ouïghours à la précarité menstruelle, des violences policières à la guerre d'Algérie, 2h30 de combat, résume un marcheur. Et pour finir, cette interpellation de Rémi Buzyn.
Est-ce que lors de votre campagne en 2022, la jeunesse sera votre priorité ?
J'ai jamais considéré la jeunesse ni comme une catégorie ni comme une cible électorale.
Et je pense comment vous leur parlerez durant cette campagne ?
C'est comme je vous ai parlé là, c'est-à-dire avec mes convictions.
Lui qui n'hésite jamais à retoquer une question enchaîne comme si de rien n'était, comme si sa candidature était une évidence. Les journalistes lui font remarquer, marche arrière immédiate et spectaculaire liée à la crise sanitaire.
Peut-être que je pourrais pas être candidat. Peut-être que je devrais faire des choses dans la dernière année, dans les derniers mois, dures, parce que les circonstances l'exigeront et qui rendront impossible le fait que je sois candidat. Je n'exclus rien. On a vécu des choses qui étaient absolument imprévisibles. Donc je ne prévois rien.
Des choses dures, comprenez, impopulaires, le spectre de François Hollande toujours en tête. Emmanuel Macron se méfie, mais exprimer cette hypothèse, cela va nous pousser à garder un œil sur Édouard Philippe. Lui y voit une manière de prendre de la hauteur.
Maxence Lambrecq, un nouvel appel à manifester ce samedi contre la loi sécurité globale et notamment contre la légalisation des drones. Plus de 80 rassemblements sont annoncés par les organisateurs dans les grandes villes de France. L'article 22 de ce projet de loi, avec en plus la perspective de reconnaissance faciale dans un avenir proche, est l'une des 3 cibles des organisateurs des Marches des Libertés. Rappelons que la préfecture de police de Paris surveille déjà les cortèges avec des drones et ce sera le cas cet après-midi.
Les négociations post-Brexit sont dans l'impasse.
Michel Barnier, le négociateur européen, a décidé de faire une pause. Ce sont toujours les mêmes points de blocage, et notamment l'accès des pêcheurs européens aux eaux britanniques. Conséquence, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et le Premier ministre britannique, Boris Johnson, tenteront de débloquer la situation cet après-midi. Correspondance à Bruxelles de Pierre Benazé.
Les déclarations des négociateurs ne sont pas d'un pessimisme total, puisqu'ils affirment qu'une pause a été conclue. Les négociations sont donc temporairement suspendus et pas définitivement interrompus. C'est cependant de très mauvais augure, puisque à la fois Michel Barnier et David Frost citent comme point de blocage les 3 pierres d'achoppement sur lesquelles la négociation bute depuis le début, la pêche, les conditions de concurrence équitable et le règlement des différends à venir. Pour poursuivre les négociations, Michel Barnier avait renoncé à rentrer à Bruxelles ce vendredi après-midi pour tenir informés les ambassadeurs représentants permanents des 27 capitales. Ce n'était que partie remise. Il va maintenant pouvoir aller informer les 27 et la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen. Et il parle d'ores et déjà de divergences importantes avec le Royaume-Uni. Le sujet passe maintenant au niveau supérieur puisque c'est Boris Johnson et Ursula von der Leyen qui vont devoir déminer le terrain avec déjà un premier coup de téléphone prévu en fin d'après-midi, ce samedi. Pierre Benazé, France Inter, à Bruxelles.
38 ans après l'attentat de la rue des Rosiers qui avait fait 6 morts, c'était en 1982 à Paris. L'un des auteurs présumés, Walid Abdulrahman Abu Zayed, a été extradé hier soir en France par la Norvège. L'extradition de ce Palestinien naturalisé norvégien ouvre la voie à un procès très attendu par les victimes. L'homme d'affaires Ziad Takieddine, arrêté hier au Liban, il était recherché par les autorités françaises concernant son implication dans une affaire de corruption de financement de la campagne de Nicolas Sarkozy.
L'actualité judiciaire, c'est aussi la suite du procès des attentats de janvier 2015.
Lors d'un hommage vibrant au dessinateur disparu, l'avocat Charlie Hebdo a appelé hier à ne pas renoncer à la liberté et aux caricatures. Avocat historique de l'hebdomadaire satirique, ami proche de plusieurs dessinateurs tués lors de l'attaque contre l'hebdomadaire, Richard Malka assure souffrir encore 5 ans après de l'absence de ses compagnons et notamment du dessinateur Charb qui, dit-il, l'inspirait chaque jour. Mais il refuse d'abandonner le combat au nom de la lutte contre le fanatisme, car selon lui, les caricatures sont un prétexte. Richard Malka s'en explique au micro de Sophie Parmentier.
Ce que je voulais dire, c'est que d'abord, le temps qui passait ne changeait rien au chagrin qui était le nôtre d'avoir été privé de l'intelligence, de la bonté, de la douceur, du talent de ceux qu'on a perdus. Et puis je voulais aussi dire que cette histoire de caricature, c'est un prétexte et qu'on pourrait arrêter de caricaturer et abandonner le droit aux caricatures, que ça ne changerait rien du tout, qu'ils continueraient à nous tuer, parce que c'est pas ça le problème. Je l'ai dit, en Autriche, il y a eu un attentat. Il n'y a pas de Charlie Hebdo en Autriche. Il n'y a pas de caricature en Autriche. C'est un pays qui réprime le blasphème. C'est même pas un pays laïque. Et ils ont des attentats. Il n'y a aucun salut dans le renoncement. Il n'y a aucun salut dans la lâcheté. Et il n'y a aucun salut dans l'obscurantisme. Ne renonçons pas à nos rêves, ne renonçons pas à nos idéaux, ne renonçons pas à notre histoire, ne renonçons pas à la liberté, ne renonçons pas à ce que nous sommes, ne renonçons pas.
Richard Malka au micro de Sophie Parmentier. Compte rendu complet des dernières plaidoiries à retrouver sur franceinter.fr. Étudiants, présidents d'université, tous le réclamaient ces derniers jours. L'exécutif ouvre finalement la voie à une reprise des cours en présentiel sur les campus à partir de début janvier et non pas en février, comme prévu lors de l'annonce du déconfinement. Emmanuel Macron envisage également une nouvelle aide exceptionnelle pour les étudiants précaires en janvier et il promet une amélioration du système des bourses. Mais les bars et les restaurants, eux, ils devront attendre l'an prochain pour ouvrir. Une situation difficile économiquement pour les zones touristiques, comme pour ce couple d'hôteliers de Deauville, rencontre signée Delphine Evdou.
Dans la salle des petits déjeuners, les tables sont dressées.
Tout est prêt, voilà, comme pour les chambres, tout est prêt à accueillir les clients.
Annie gère l'hôtel de la Côte Fleurie avec son mari.
Pour pouvoir être réactif au plus vite. Et puis on a besoin tous les jours aussi de continuer de rester dedans, quoi, en fait.
Le couple habite sur place, leurs 2 salariés en chômage partiel sont vite mobilisables en cas de besoin. Alors l'hôtel reste ouvert, mais les journées sont longues.
Pour l'instant, l'hôtel est ouvert sur les sites à la vente, mais il n'y a pas de frémissement, il n'y a personne, enfin, il n'y a pas d'appel pour le moment.
Rien
du tout. Le planning est vide.
La semaine dernière, les ventes de chevaux à Deauville ont amené 3 clients. Une maigre consolation, explique Laurent.
On comptait beaucoup quand même sur les vacances de Noël, puisque c'est, pour nous c'est une grosse période en temps normal. Le jour de l'an, en principe, on est complet. Mais là, on a 0 réservation. Il faut attendre le déconfinement total, donc le 20 janvier, pour que les restaurants repartent. Et je pense que les gens vont avoir envie de ressortir à nouveau.
En attendant, le couple prend son mal en patience.
On ne peut pas savoir jusque quand ça va durer. Mais bien sûr, on garde espoir et puis on sait que ça va repartir. Et que voilà, il faut juste être patient, prudent et puis attendre des jours meilleurs.
Les hôteliers ont touché 2 fois 1 500 euros du fonds de solidarité et espèrent un 3e versement pour le mois de novembre. Annie et Laurent, qui se sont reconvertis dans l'hôtellerie il y a 4 ans, disent aujourd'hui n'avoir aucun regret.
Delphine Evenou. Les obsèques de l'ancien président Valéry Giscard d'Estaing, mort mercredi à 94 ans, auront lieu ce matin à 10h30 à Autun dans le Loir-et-Cher. Un hommage civil et un office religieux seront organisés la semaine prochaine à Paris. Le sport avec l'Euro féminin de handball au Danemark. Une victoire dans la douleur pour les joueuses de l'équipe de France hier soir. Pour leur premier match, elles ont battu le Monténégro de justesse 24-23. Ce succès permet aux Françaises d'aborder la suite avec davantage de sérénité. Jean-Pierre Blimaud.
Les Françaises avaient pris la mauvaise habitude de rater la première marche, comme face à la Russie à l'Euro 2018 ou face à la Corée du Sud au Mondial 2019. Cette fois, elles ont vaincu le signe indien par ce succès étriqué face à une équipe du Monténégro qui n'est pas un épouvantail dans cet Euro. Mais cette victoire permet aux Françaises d'évacuer un stress immense, comme le confirme la gardienne Cléopâtre Darleux.
C'était vraiment un match, je trouve, au mental et chaque ballon a été super important. On est à chaque fois revenu, on s'accrochait et c'est des très bonnes joueuses en face.
Nerveuses et en manque d'efficacité au début du match, les tricolores ont tout de même fait preuve preuve de caractère, estime leur entraîneur Olivier Crumbles.
Il y a toujours cette peur au ventre sur le premier match. On n'a toujours pas trouvé la clé, mais cette fois-ci, on a gagné. On a cherché la bonne combinaison jusqu'à trouver Aïssa Toukouyaté.
Aïssa Toukouyaté, 25 ans, s'est en effet montrée décisive en toute fin de match pour sa première grande compétition avec les Bleus.
Ça m'est déjà arrivé de rentrer dans le Money Time. Après, avec le stress, le match qui était assez intense, j'avais pas le temps de réfléchir, donc je faisais ce que j'avais à faire et voilà.
Le stress du premier match évacué se profile la Slovénie et le Danemark. Et pour être mieux armées, les Françaises espèrent le retour d'Orlane Kanor, l'une des principales artilleuses de l'équipe de France, ménagée contre le Monténégro.
Jean-Pierre Blimaud.
Et c'était le journal de Laurence Thomas. Le temps de ce samedi.
La météo avec les fermiers de Loué qui ne font rien. Rien que des œufs fermiers de poule en liberté. Loué, libre par nature.
Avec des températures maximales souvent en baisse aujourd'hui, hein, Jean-Michel Gonaski.
Ah, c'est vrai, il fera 5 à 8 dans la moitié nord, 10 à 14 au sud, avec par exemple 5 prévus à Nevers et Mulhouse, 6 à Guingamp et à Béthune, 7 à Guéret dans la capitale, 8 en Rhône-Alpes, 10 à 12 de l'Aquitaine à la Provence et 14 degrés sur la Corse du sud, qui est maintenue pour la matinée en vigilance orange, fortes précipitations et orages. L'est du pays va passer la journée sous un temps plus calme que les régions de la moitié ouest, soumise à une zone dépressionnaire qui va s'accompagner d'un vent très turbulent sur l'arc atlantique, de pluies parfois mêlées de flocons jusqu'en plaine, du Limousin à la Bretagne. Ces précipitations plus ou moins mêlées de neige fondante vont gagner en fin d'après-midi vers le nord, le bassin parisien et le centre, tandis qu'en cours de journée, de fortes averses mêlées d'orages vont s'installer par la façade atlantique.